Un homme est sur une île avec un loup, un chou, puis une chèvre. Il peut transporter seulement un item à la fois dans sa chaloupe. Mais s'il part tout seul avec le chou, le loup mange la chèvre. S'il part tout seul avec le loup, la chèvre mange le chou. Alors comment faire pour traverser tout ce monde-là de l'autre côté de la rive en sachant que l'homme en question est en plein marathon de lecture?
Avec ou sans l'accent, nous voilà partis à la découverte des écritures francophones du Québec avec un festival hors normes qui n'hésite pas à s'amuser avec la langue. Nom de ce festival, Jamais lu, avec une version à Montréal, une à Québec et la troisième à Paris. Et ça tombe bien, c'est ce week-end à Théâtre Ouvert. Bonjour Marcel Dubois.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de ce festival, alors vous allez tout nous raconter. Mais de cette histoire de chou, de chèvre et de loup, on s'en sort comment? C'est quoi la réponse? Alors il faut préciser que c'était dans la bande-annonce de l'édition 2017, mais ça m'a fait beaucoup rire.
Oui, je sais pas comment on s'en sort. J'étais préoccupée à tenter de reconnaître cette voix qui m'est si familière. Mais je crois qu'il faut tout traverser d'un coup. Faut y aller. Et puis, on verra ce qui se passe de l'autre côté.
C'est très québécois, hein, je trouve ça. Faut y aller.
Oui, exact.
On y va, on se pose pas de questions et on traverse.
Exact.
Avec vous, Philippe Cyr, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, metteur en scène et vous mettez en lecture, dans le cadre du festival, ou de sa version parisienne en tout cas, un texte de Claire Barabès,
oui,
qui est comédienne et auteur. Bonjour à vous, Claire.
Bonjour.
Barabès. Sans accent, on l'aura noté, ou plutôt avec un accent de France. Est-ce que pour vous, nous avons de l'accent.
Très fort.
Ah bon? Non.
Absolument, un très gros accent.
Oui,
c'est vrai?
Oui.
Donc vous n'avez pas d'accent et moi j'ai de l'accent.
Exact. Nous en avons tous.
Nous en avons tous, hein, voilà.
Tout dépend de où on part.
Absolument. Mais vous dites quoi de l'accent français?
Qu'il est pointu, rapide et qu'il faut, il faut s'y faire l'oreille aussi. Hein. Puis évidemment, en fait, il n'y a pas un accent français, commençons par ça. Il y a plusieurs accents français.
Et comment faire pour nous imiter?
Ah, on fait pas ça. Sinon que lorsque les soirées s'étirent.
Exactement,
et qu'on veut s'amuser un peu.
Donc il faut un peu plus de whisky, un peu moins d'eau minérale.
Exactement, là, je n'oserai pas devant vous. Ouais.
Allez, on va être un peu sérieux et nous allons raconter ce qui va se passer en cette fin de semaine. Mais il est quand même nécessaire, oui, Marcel Dubois, de faire un peu d'histoire et de remonter à ce jour. Alors je ne sais pas s'il y a eu un jour particulier où le Jamais lu a été créé au Québec il y a 17 ans à peu près.
Exactement. En fait, cette année, le festival du Jamais lu, qui est la forme originale de l'organisme, en fait, est né il y a 18 ans, au mois de mai, au mois de mai 2001. J'ai travaillé dans un petit café théâtre. J'ai commencé ma carrière, oui, d'autrice aussi, puisque j'écris aussi pour le théâtre. J'avais un circuit incomplexe. Moi, j'ai pas fait les écoles de théâtre officielles en dramaturgie et tout. J'ai fait plutôt l'université. Mais par contre, dans ce café théâtre, tous les étudiants des écoles de théâtre, ils passaient, ils venaient. Et comme ça, un soir, avec mon collègue, qui lui était plutôt du côté administratif, de l'administration culturelle, on s'est mis à fantasmer sur une tribune où on entendrait tous ces gens à qui je servais du café tous les jours, qui passaient par là, à qui on connaissait toutes les désirs, les tracas, j'allais dire les espoirs déçus aussi, parce que ça a beaucoup changé dans les 18 dernières années, mais à l'époque, sur la scène montréalaise, il y avait très, très peu d'espace pour la relève, ce qu'on appelle la relève, les nouvelles paroles. Et donc, dans un élan de sympathie, je dirais, pour tous ces jeunes auteurs montants-là, on a créé une tribune de 10 jours et il y avait déjà une certaine Évelyne Lachenelière, qui est maintenant une autrice très, très reconnue avec son certain Bachir Lazare. Et il y avait des auteurs qui maintenant sont les fers de lance de notre culture québécoise. Et puis, comme ça, on s'est développé en 18 ans.
Donc, vous les avez lancés, en fait, tous ces auteurs-là. C'est un tremplin.
Exactement. On les a incubés, je dirais, ou les a accompagnés.
Jamais lu, parce que ce sont des inédits, forcément.
C'est-à-dire exactement.
Inédits aussi bien au livre, c'est-à-dire pas publié, mais aussi à la scène.
Oui.
Il n'y a pas de mise en scène.
J'allais dire surtout à la scène. On a un rapport peut-être un petit peu différent à l'édition théâtrale au Québec. Je fais un peu une généralité un peu courte, mais l'édition théâtrale chez nous est pratiquement absente, sinon rarissime, disons. Et elle vient après le spectacle. Rarement avant, voire presque jamais, en fait, avant. Donc, pour exister, il faut être lu, joué sur une scène et ensuite découle le reste. Donc, si l'auteur n'avait pas ce premier espace de prise de parole-là, eh bien, la suite était très, très difficile.
Donc, vous continuez toujours à bichonner les jeunes auteurs ou maintenant, fort de ces 17 ou 18 années d'existence, vous ne ciblez que les auteurs confirmés?
Non, absolument pas. En fait, c'est le défi d'un événement qui croît. Au début, on était évidemment dans une forme très artisanale, très spontané. On s'est structuré. Le festival fait toujours 10 jours. Par contre, celui de Montréal, il a gardé sa forme originale. Et pour moi, maintenant, je me fais vraiment un devoir. Sur 10 jours, on présente une trentaine d'événements, donc à peu près une douzaine de textes et plein d'autres événements festifs. Et selon la nature de ce qu'on fait, pour moi, c'est important qu'il y ait maintenant trois familles d'auteurs qui s'y retrouvent, c'est-à-dire ceux qui ont avec nous grandi avec le Jamais lu, la deuxième génération qui est arrivée et qui maintenant est vraiment très reconnue aussi, les Sarah Bertium, les Sébastien David, les David Paquet, qui ont été attrapés ou disons qu'on s'est propulsés eux et nous, enfin le Jamais lu et eux-mêmes ensemble. Et bien sûr, il faut absolument regarder vers cette nouvelle génération qui sort, puisque nous ne sommes plus ce qu'on peut appeler la relève. Donc, il faut garder l'oreille au niveau des nouvelles générations qui arrivent. C'est absolument nécessaire.
Est-ce qu'il y a des points communs entre cette génération? Est-ce qu'on peut faire une généralité sur la dramaturgie, le théâtre québécois, où vraiment il y a une diversité telle que ça n'a pas de sens de dire, moi par exemple, depuis ma petite lorgnette comme ça parisienne, j'ai toujours le sentiment que le théâtre québécois, c'est à la fois très frontal, très direct, qu'un chat c'est un chat et qu'il y a un côté très efficace du oui. théâtre québécois. Philippe Cyr, par exemple.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté efficace, mais en même temps, il y a une poésie tout à fait particulière. C'est-à-dire que je pense que chaque auteur développe son propre langage. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment une particularité propre pour chacun. Il y a des formules qui sont spectaculaires. C'est vrai que c'est très frontal, mais en même temps, il y a une passion dans chacun de ces auteurs-là, un récit qui s'ancre souvent dans une tonne d'émotivité.
Mmh. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Je dirais que si on peut faire une espèce de... Il y a évidemment autant de paroles qu'il y a d'auteurs, mais il y a quelque chose de... J'allais dire, il y a de l'espace. Je pense que ça
appartient un peu. C'est parce qu'au Canada, il y a de l'espace. Entre les gens, le pays est grand.
Mais
c'est
moi, je
fou,
crois qu'il y a un peu... je pense que le territoire nous modèle. Et encore là, c'est difficile de faire des grandes généralités, mais il y a quelque chose dans les écritures européennes de peut-être plus compact où on prend part peut-être un peu plus directement avec la mêlée. Je trouve que dans l'écriture souvent québécoise, il y a cette question-là de la place dans le monde, mais très, très ouverte. Elle est, on s'empare peut-être un petit peu moins de grands enjeux politiques. Et par contre, on se pose toujours la question de comment on s'insère dans ce noyau social-là qu'on est. Donc, il y a un rapport à la dramaturgie qui est différent, ça, c'est
et
sûr.
Et puis, il y a peut-être aussi moins de frontières entre les disciplines, parce que j'ai cru comprendre que les auteurs québécois de théâtre pouvaient aussi écrire pour le cinéma, pour la télévision.
Absolument.
Donc, il y a des glissements comme ça d'écriture et éventuellement une forme d'efficacité, parce qu'on n'écrit pas tout à fait de la même manière pour la scène que pour la télé, où on demande d'être un peu plus, voyez, tchac-tchac.
Exact. Ben c'est un phénomène de survie, j'ai envie de dire. C'est, je pense que, bien que, et à juste titre, vous défendez ici l'exception culturelle et vous la trouvez mise à mal par différentes politiques actuellement, et je pense que c'est très bien, mais quand on part d'un pays où il n'y a pas l'intermittence du spectacle, il y a pas, on doit être éminemment débrouillard, on a tous nos compagnies de théâtre, on est auteur, metteur en scène, producteur, qui écrit pour le cinéma, la télé. Donc ça, c'est bon côté, on devient très, très habile et très inventif. Et parfois, ça, c'est mauvais côté aussi, où on a moins de temps pour se consacrer et pousser une parole peut-être jusqu'au un petit peu plus loin, un peu plus.
Alors en tout cas, le festival Jamais Lu au Québec et à Montréal est vraiment le lieu pour découvrir toutes ces générations, et je mets des pluriels d'auteurs québécois et francophones, avec l'idée d'une fête. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Je n'y suis jamais venu, j'espère y venir un jour, mais tout le monde me raconte que il y a du monde, il y a de l'invention, enfin voilà, c'est généreux en fait.
Oui, Philippe est sûrement le mieux placé que moi pour en témoigner, mais ça fait partie de notre ADN, oui.
Ben oui, c'est généreux, c'est toujours festif, il y a toujours tout ce qu'il faut comme décoration, comme boisson pour que ce soit tout à fait oui. festif, mais aussi le travail des gens l'est, c'est-à-dire que les auteurs puis les metteurs en scène, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est d'aller à la rencontre des gens. On est là pour ça, on est là pour baptiser les textes pour une première fois, faire de cette rencontre-là un moment riche et que ce soit et que ça arrive réellement, donc on la veut généreuse et pleine, cette rencontre.
Et vous aimez jouer avec les mots, jouer avec les formes, inventer des formes de spectacle sur oui. votre site internet. Ça m'a beaucoup amusé, là aussi, de trouver cette proposition qui s'appelle « Vendre ou rénover ».
On s'ennuie! Jouons aux cartes! Non! Inventons un culte! Non! Faisons de la politique! Non! Imaginons une réception mondaine! Non! Organisons des funérailles pour un ami imaginaire! Non! Écrivons une grande œuvre sur les spermatozoïdes! Non! Faisons un bébé! Non! Je vous le donne en mille. Chacune de ces propositions s'avérera complètement inutile, les personnages l'abandonnant après 5 minutes pour passer au prochain sketch. Le tout après s'être traité de crétin, les mains sur les hanches, en roulant des yeux. En résulte une pièce qui semble être une recherche sur l'ennui tant dans le fond que la forme. À preuve, ce dialogue emblématique entre Faber, le matelot, et Gamma, le capitaine.
Je tiens à souligner au public ainsi qu'au jury que j'ai été forcé de prêter mon talent à cette scène et à mon adversaire. Et puis, que faisons-nous? Hein? Car il faut bien tout de même que de cette vie qu'on nous prêta, nous fassions quelque chose. Allons, il va le dire. Que faisons-nous?
Vous et moi, ben, vous voyez, on cause.
On cause et on rit, petite pastille sonore d'une édition québécoise du Jamais Lu. Il y a un petit côté stand-up. Racontez-moi, oui. Marcel Dubois, c'est quoi cette proposition-là? Parce qu'on voit bien que c'est pas du théâtre classique.
Non, en fait, ben, au contraire, on s'est bien amusé avec, c'est un concept d'un artiste qui s'appelle Alexandre Fecteau qu'on a mis en scène. Parce que si on fait découvrir des textes, évidemment, en mise en lecture, on crée aussi plusieurs événements, cabarets littéraires, souvent thématiques ou qui posent différentes questions. Soit sociale, soit sur la dramaturgie même. Et donc là, l'événement « Vendre ou rénover, combat théâtral sur les classiques de la dramaturgie québécoise ». On était dans la joute oratoire, donc il y avait Sarah Berthiaume, la première qu'on a entendue, qui devait vendre le classique en question, qui est un texte d'Alain Ponto, « Ce bateau qui vogue comme... » j'ai oublié le titre, ce titre est impossible.
Oui. «
Ce bateau qui vogue comme Dieu seul sait comment, c'est-à-dire mal ». C'est ça le titre.
Quel
voilà.
titre?
Et donc, elle doit... En fait, quand un auteur devait vendre un texte, c'est-à-dire dire « on ne monte plus ce classique-là, ça sert plus à rien », et celui qui devait rénover disait « non, on doit encore le monter encore aujourd'hui, c'est encore pertinent dans... » Donc, Justin Laramée, le deuxième qui défendait ce texte-là. Donc, on est dans la joute oratoire. Dans ce cas-ci, par exemple, il défendait un peu l'indéfendable. Les deux, même celui qui devait rénover, avait tendance à le vendre.
Être ou ne pas être, vendre ou rénover.
Alive.
Gérald de Toto, Swy, son nouvel album sort demain. Gérald Toto, chanteur français qui chante en anglais. Ça vous choque, vous, Québécois, Marcel Dubois? Parce que vous êtes pointilleux hein, sur la francophonie, en principe.
Mais oui et non. C'est-à-dire, moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, j'aime bien qu'on s'intéresse aux autres, à d'autres langues et tout ça. Là où on est pointilleux, évidemment, c'est un peu peut-être dans notre rôle de j'allais dire de gardien de la langue française dans une Amérique anglophone, ça certainement, la précision du mot, l'importance de cette communauté culturelle là qui a pas les mêmes référents. D'ailleurs, le Québec est un peu une communauté marginale dans cette Amérique qui est beaucoup plus carrée. Nous, on est un peu plus proche du latin, de l'énergie latine, de l'Europe même, tout en étant bien sûr des francophones nord-américains.
Tout ça est encore une histoire de géographie, d'une certaine
bien
façon.
Sûr.
Alors, le jamais lu, on a cru comprendre à peu près comment était cette fête incroyable qui se passe à Montréal et à Québec. Depuis 4 ans, vous avez décidé de vous installer à Paris. C'est une troisième version. Pourquoi avoir immigré?
Ah, parce que tout est affaire de rencontre, effectivement, dans la vie. Il y a un auteur québécois qui s'appelle Marc-Antoine Cyr, qui a été dans les débuts de Jamais Lu. Il a fait partie, d'ailleurs, avec un de ses premiers textes, Ravoir la mer, du tout premier des Jamais Lu, à Montréal, et qui a immigré, lui, il y a une dizaine d'années à Paris. Et un jour, en conversant, il me dit « Ah, je m'ennuie de Jamais Lu, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose à Paris ?» Certes, fallait trouver, l'idée était belle, mais fallait trouver les moyens. Faut savoir qu'on est une petite structure quand même. Pour nous, on n'a pas de mandat institutionnel, donc nos moyens sont assez limités. Et on a trouvé une partenaire fabuleuse et très audacieuse, j'ai envie de dire, en la personne de Caroline Marciac à Théâtre Ouvert, qui est venue au Jamais Lu Montréal, a vu l'effervescence, a vu justement ce côté où la mise en lecture n'est pas en attendant qu'un texte existe, mais bien une façon de présenter la littérature théâtrale, de rentrer dans la littérature théâtrale comme une finalité. Et elle a beaucoup aimé ce geste de confiance, de fête autour des mots, de la parole contemporaine qu'on faisait. Et puis elle a dit, ben, très bien, on est au mois de mai. Et elle dit, très bien, on le fait chez nous au mois de décembre.
Et voilà, c'est comme ça qu'est née la première édition. Et aujourd'hui, on en est à la quatrième. Alors, c'est un modèle, bien sûr, un petit peu plus réduit. Il n'y a que 4 textes qui sont proposés. Il y a un appel à candidature qui a lieu au printemps. Et puis, une sélection terrible qui fait que...
Oui, on en reçoit 120, on en choisit 4.
120, vous en choisissez 4. Et puis, ce qui se passe, c'est que les textes d'auteurs français sont proposés à des metteurs en scène québécois. Et c'est ce qui vous est arrivé, Philippe Cyr. Vous avez trouvé, choisi peut-être, je ne sais pas, le texte de Claire Barabès.
Je n'ai pas choisi Claire Barabès.
On les a matchés.
En bon québécois, on m'a matché avec Claire Barabès, qui est par ailleurs un très bon match. Alors, vous saurez le dire peut-être dimanche prochain. Mais pour l'instant, Claire et moi, on s'entend très, très bien dans ce travail-là. Mais effectivement, je viens ici un peu aveugle. J'avais le texte, je l'avais lu quelques fois. Et même, on m'a imposé la distribution, alors que des acteurs français. Alors, je suis totalement parachuté dans cette vie parisienne pour monter cette lecture, en fait.
Alors, le texte s'appelle « Soulever l'opercule ». On va en dire quelques mots, mais j'aimerais, Claire Barabès, que vous nous en lisiez d'abord un court extrait pour qu'on entende votre langue, puisque c'est le principe de ce festival, de
Absolument.
Faire entendre les textes. Et nous sommes à la radio, ça tombe bien. Je vous écoute, nous vous écoutons.
Entre les pavés, pendant que je marchais, il y avait un liquide brunâtre. Entre chaque interstice sombre, et c'était comme mouvant en fait. Ces pavés, on aurait dit qu'ils étaient sur de la boue, pas sur du sol. Enfin, comme dans quelque chose de meuble. Ouais, comme dans de la pâte à pain de seigle. Et plus j'approchais de la fontaine, et plus il y avait du liquide brunâtre. Et dans les amphores des statues, c'était pas de l'eau qui coulait, ni du vin. J'ai goûté, t'inquiète. J'ai tout de suite goûté. C'était du sang, mon pauvre. Du sang partout. Mon pauvre, j'ai fait un bond et j'ai hurlé. Ah, c'est dégueu. Et j'ai fait le tour pour bien voir. Et en fait, j'avais jamais vraiment vu qu'une des 3 grâces sur la place. En fait, c'est une noire. Si, une noire. Si, je te jure, il y en a une, elle est noire. Et je lui ai dit comme ça, t'es belle. Et la meuf, elle m'a répondu, mais si, mon pauvre, je te jure, elle m'a répondu. Elle m'a dit comme ça, cache, sans plus de préambule. J'adore ce mot, préambule. Ça veut dire avant les bulles. Bref, la statue, elle m'a dit comme ça, cache, montre-moi tes seins, petite pute. Arrête de rire, je te jure. Mais là, j'ai paniqué. Je te jure, mon pauvre, j'ai pété un watt. Mais je l'ai fait. Ouais, arrête de rire. J'ai enlevé mon débardeur et je lui ai montré mes seins. Et je sais pas comment j'en étais rendue là, mais j'étais debout dans la fontaine avec du sang à peu près à mi-cuisse. Et mon débardeur flottait à côté de moi et je lui ai dit, je suis comme toi. Et je pensais vraiment que ça ferait un truc, tu vois, que en fait, je sais pas, qu'elle viendrait à moi. Et en fait, non, elle a juste repris son sourire de façade en disant « Les putes et les esclaves, c'est pas la même chose. C'est comme les esclaves et les ouvriers, c'est différent. » Même si nos routes se croisent, souvent, et que l'on vend tous nos corps, les esclaves sont une totale propriété. Pas d'horizon à l'horizon. L'enfant philippin qui a cousu ton débardeur, on peut dire que c'est un esclave. Elle m'a séché. J'ai dit pardon et j'ai couru seins nus jusqu'à la maison.
Soulever l'opercule, Claire Barabès, ça s'appelle une exclusivité pour les auditeurs de RFI, puisque vous participez au festival Jamais Lu, et que par principe, comme son nom l'indique, ce texte n'a jamais été vraiment lu. J'ai envie de rajouter, peut-être qu'il a été lu un peu, non ?
Il a été lu un peu, mais jamais dans l'entièreté.
Jamais et dans l'entièreté, parce donc que c'est vraiment une première.
Ouais, parce que je l'ai vraiment terminé pour le Jamais Lu.
Et c'est un texte qui parle, on le comprend dans l'extrait que vous avez lu, de la question de la marchandisation des corps, ouais, de la prostitution, oui, avec des échos vers l'esclavage. Il oui. Y a une narration, c'est un monologue.
Non, il y a une totale narration. Je me suis ancrée dans une famille bordelaise, pour de multiples raisons. La première étant que Bordeaux est quand même une ville qui a fait sa prospérité sur un passé négrier. Absolument, et du coup, oui, je trouvais intéressant de mettre en regard différentes couches d'histoire. Et voilà, moi, je suis une enfant d'immigrés espagnols, italiens. Je suis un mélange français d'une multitude de strates. Et je trouvais intéressant d'aller questionner ça, surtout à l'époque qu'on vit. Et du coup, voilà, la marchandisation du corps, pour moi, elle peut pas se détacher du reste du monde. Et voilà, je suis partie d'abord de la prostitution, mais en fait, je me suis dit, mais c'est immense, c'est large, c'est ancien, c'est, et voilà, je voulais absolument qu'il y ait, différentes strates.
Soulever l'opercule, alors je vais pas nommer l'écriture puisque vous avez votre metteur en scène ou votre metteur en voix, je vais le laisser faire, mais c'est quand même assez cash c'est très vif, c'est très parlé et on est loin
Vous parliez de générosité tout à l'heure, c'est exactement ça. Claire est une fille débordante et c'est comme ça dans son texte aussi, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme elle aime bien l'appeler en nénuphar. Alors il y a pas du tout une linéarité dans cette histoire. C'est vraiment il y a une multitude de strates et une multitude de messages et toutes les histoires s'entremêlent, les niveaux de temporalité aussi. Alors c'est un truc qui est complètement foisonnant et ça, ben ma foi, c'est assez passionnant à travailler.
Pensez-vous, Claire Barabès, que le regard d'un metteur en scène étranger québécois, alors c'est un peu les grands cousins, mais quand même, on n'a pas tout à fait la même culture, est spécifique sur votre travail, que ça apporte une couche supplémentaire de compréhension.
Ah oui, 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 c'est... Et puis, je retourne le compliment, Philippe Cyr est lui aussi très généreux et surtout très à l'écoute. Donc, du coup, je sais pas, il y a une vraie... Je fais le geste de l'embrassade, mais en fait, il prend, en plus, tout lui est imposé, là, pour le coup, il a rien choisi, et il prend tout, et il dit, OK. Et du coup, on va vers un endroit à deux, enfin, à plusieurs, avec les acteurs qu'on connaît pas du tout. Et puis, c'est pas du tout inquiétant, parce qu'il est là, et que tout semble simple, en fait. Et du coup, c'est riche, et moi, je vais dans un endroit que je connais pas, et je suis ravie.
Mais alors, en fait, vous faites tous du théâtre, tous en français. Oui. Et il y a de l'interculturalité.
Absolument.
Complètement.
Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est complètement, c'est très différent de ce qu'on fait habituellement.
Ouais, ouais.
Pour moi, quand je suis en salle de répétition avec Claire, je lis son mot, je lis ses textes. Oui, la langue est commune, mais il y a déjà une sonorité, un truc qui lui appartient, mais pas juste à elle. Il y a un truc qui appartient de où elle vient. Puis là, j'écoute les acteurs. Il y a d'autres sonorités, des sonorités que moi je connais pas nécessairement. Alors c'est très confrontant, puis en même temps extrêmement stimulant d'essayer de découvrir ça et de lier tout ça ensemble.
Donc pour être francophone, il faut être un peu musicien, si je vous entends bien.
Ouais.
Vous aimez jouer avec la langue, nous aussi, mais quand même on est un peu plus sérieux, je crois, en France et surtout sur RFI, avec notre site RFI Savoir, pour apprendre et enseigner le français. Une mine, cependant, que Déborah Gros va régulièrement nous faire découvrir, car RFI, comme dirait l'autre, c'est la classe. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Dans les 1001 ressources du site RFI Savoir, il y a en ce moment un dossier consacré à l'économie.
Exactement. À l'occasion des 10 ans de la crise des subprimes, RFI Savoir propose un dossier sur son site. Je vous propose de commencer par écouter un extrait sonore.
Contaminés par la crise du crédit, les banques d'affaires craquent. Lehman Brothers dépose le bilan, ses employés repartent avec leurs cartons. Des millions d'Américains font aussi les leurs, parfois sur le trottoir, expulsés de leur maison. Chômage, dette, l'Amérique est en cessation de paiement. Les citoyens comme les banques. L'opinion publique découvre la haute finance et ses banquiers voyous. Des parieurs à haut risque, prêts à sacrifier l'économie mondiale sur l'autel du profit.
Waouh, on sent le stress hein, là, Déborah.
Ah oui, là on est dans l'ambiance. 2008, c'est la crise. Avant même de comprendre exactement ce que nous dit la journaliste Karine Barzégar, on sait que c'est un sujet sérieux, le ton de sa voix est grave, et puis il y a cette musique de fond, en effet, qui vient donner un effet dramatique.
Mais alors si on se penche plus précisément sur le contenu, sur ce qui est raconté, qu'est-ce qu'on apprend de la langue utilisée?
Alors il y a bien sûr tout le vocabulaire de l'économie, déposer le bilan, le chômage, la dette, une cessation de paiement ou l'impossibilité de rembourser une dette, mais il y a surtout une expression que je trouve intéressante, c'est le banquier voyou. Alors déjà, un voyou, si on cherche dans le dictionnaire, c'est une personne qui se conduit mal, provocante, sans moralité, bah, qui peut être un voleur, un brigand. Et le mot banquier, bien, pour la majorité d'entre nous, quand on ne connaît pas grand-chose à la finance, c'est un peu un nom générique qui regroupe de nombreuses professions, trader, coursier, etc.
Tous pourris, quoi.
Exactement. Presque. Voilà. Et au-delà de cette définition, si on veut illustrer cette expression dans la classe, on peut évidemment chercher des images qui ne manquent pas, autant dans les médias qu'en cinéma, des dessins de presse, des caricatures ou un film. Il y a évidemment Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Et puis si on cherche un film français, Le Capital de Costa Gavras qui est sorti en 2012.
Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches.
C'est un jeu. Parfois injuste, un peu cruel, certes, mais un jeu planétaire.
Et les gens qui perdent leur emploi, leur vie, pour enrichir des actionnaires, ils jouent aussi.
Banquier voyou, en tout cas avec cette expression, Déborah, il y a un effet garanti pour marquer les esprits.
Exactement, elle va capter l'attention de l'auditeur pour faire naître des images dans sa tête. D'ailleurs, Karine Barzégar, dans le premier extrait, nous dit que les banquiers ont sacrifié l'économie mondiale sur l'autel du profit.
Autel A-U-T-E-L, hein, pas l'autel.
Voilà, l'idée de sacrifice, de mort assez violente, évidemment là elle exagère et l'auditeur n'est pas dupe. Il va pas prendre tout ça au premier degré, mais c'est le but du langage journalistique. C'est de donner du relief aussi, d'être clair mais imagé.
En évitant la caricature. Donc, ce dossier sur la crise économique à retrouver sur RFI Savoir avec plein de choses hein, à entendre.
Des extraits sonores courts, accompagnés d'activités à faire chez soi ou en classe pour travailler sur le vocabulaire de l'économie, revenir aux événements 2008 et aussi comprendre comment on en parle dans les médias et à la radio.
Merci Déborah Gros. On dit quoi au Québec pour banquier voyou ? Philippe Cyr.
Il y a plusieurs terminologies, mais on pourrait dire crosseur en cravate.
Ouais. Crosseur en cravate?
Ouais, ouais.
Ça veut dire quoi, crosseur?
Ben, ça veut dire quelqu'un qui est un bandit, quelqu'un qui est un escroc.
Crosser le système, ça veut dire fourrer le système, ça veut dire...
Voilà, d'accord, on arrête tout, c'est terminé. Merci beaucoup à tous les trois, le festival Jamais Lu version Paris. C'est ce week-end à Théâtre Ouvert de vive voix. Pascal Paradou, Guillaume Ploquin, Véronique Durand. La semaine prochaine, nous serons à Ouagadougou pour le festival Les Récréatrales. À très vite.